D'habitude, je ne fais jamais de chronique sur les affaires franco-françaises, pour des raisons qui me sont propres. Mais trop, c'est trop. Nous sommes arrivés en France, nous autres de l'immigration, comme on dit, à un tel niveau de stigmatisation que l'on ne peut plus se permettre de ne pas s'impliquer un tant soit peu. Cette histoire de Mohamed Merah m'a finalement incité à dire mon avis sur certaines questions cruciales où les gens comme moi, les Maghrébins, les Noirs et les musulmans tout particulièrement, sont devenus l'inépuisable fonds de commerce qu'on ressort à chaque campagne électorale et entre une campagne électorale et une autre, c'est-à-dire tout le temps. Et quand je dis fonds de commerce, je reste mesuré parce que dans la réalité des choses, nous sommes plutôt les boucs émissaires qu'on charge de tous les maux, de tous les problèmes de la société. Particulièrement ceux que tous ces politiciens qui sont aux affaires et ceux qui rêvent d'y être sont censés régler. Alors plutôt que d'affronter les vrais défis qui se posent à la société française, quitte à y laisser des plumes électorales, quitte à déplaire à un grand nombre de Français qui ne veulent pas voir la réalité en face, et se décider donc à aller au charbon des grandes résolutions, les politicards de tous bords préfèrent continuer à bercer les gens d'illusions, en leur servant une soupe imaginaire, et surtout en nourrissant leurs plus bas instincts, leur rancœur devant une telle dégradation de leur cadre et leur niveau de vie. Et rien de tel pour un tel exercice, n'est-ce pas, que de crier « haro » sur le baudet, sur le bougnoul, la racaille, les gris, les noirs. Et ce genre d'incantation est devenu tellement payant qu'un Zemmour ne craint pas de dire à la télé, à une heure de grande écoute, que la plupart des trafiquants, de drogue entre autres, sont des noirs et des arabes, bien sûr. Et il le dit sans sourciller, en toute bonne conscience, voire même avec un certain air de triomphe. Et le comble est que cette outrance a été un véritable baume sur le cœur de millions de Français blancs, comme on dit. Et Zemmour, qui est pourtant journaliste, et qui sait très bien qu'on peut tout faire avec des statistiques et des constats à l'emporte-pièce comme celui-ci, se garde bien de dire que la surreprésentativité communautaire s'explique toujours de façon objective. Oui, oui, bien sûr, les Noirs et les Arabes sont surreprésentés dans les affaires de délit en tout genre, tout comme ils sont surreprésentés dans les emplois de balayeurs, des boueurs, d'agents de sécurité et autres. Tout simplement, et sans aller au fond des choses, parce qu'ils sont ghettoisés dans des quartiers infâmes, parce qu'ils sont marginalisés, parce qu'ils sont considérés comme des infra-citoyens. Et qu'au moment où la moyenne du chômage en France avoisine les 10%, dans leur communauté à eux, ces Noirs et ces Maghrébins, comme disent Moore, elle est de 50% et plus parfois. Et ce n'est pas parce qu'ils sont naturellement paresseux, puisque leurs parents, que la France a fait venir de leur pays respectif, ont été la masse ouvrière qui a contribué de façon remarquable, remarquée, au développement de la France d'après-guerre. Après avoir été la chair à canon de guerres qui ne les concernaient pas, ils ont été colonisés, réduits à une situation de quasi-esclavage et parfois même d'esclavage dans leur propre pays, d'où ils ont été bannis pour aller peupler des îles lointaines pour servir de main-d'œuvre à bon marché, ou de main-d'œuvre gratuite plutôt, puis enrôlés de force dans des guerres entre Européens et utilisés encore une fois comme chair à canon, puis comme travailleurs qu'on pouvait exploiter jusqu'au bout. Puis, comme certains politicards à la courte vue ont décidé un jour que ces gens devaient être incités à ramener leur famille en France, une certaine dynamique s'est mise en marche. Ainsi, ces politicards avaient pensé à l'époque que les Glorieuses allaient durer éternellement, indéfiniment. Et dans leur vision du moment, ils pensaient que ces immigrés, plutôt que d'envoyer tout cet argent dans leur pays respectif, pourraient le dépenser sur place et stimuler davantage la consommation. Et plutôt donc de partir au pays, ils ramèneraient leurs enfants pour faire du deux en un, qui seraient formés de façon à les remplacer, puisque eux, ces travailleurs-là, étaient arrivés au bout du rouleau et prêts à partir à la retraite. Donc ces politiciens à la courte vue ont pensé qu'en ramenant en incitant ces gens à s'installer, non seulement ils garderaient beaucoup d'argent en France, mais qu'en plus, ils remplaceraient ces gens qui allaient partir à la retraite, comme s'il était concevable que l'ouvrier ne puisse enfanter que des ouvriers, le balayeur des balayeurs et l'éboueur des éboueurs. Et comme on ne voulait surtout pas que ces gens venus de leur brousse lointaine, de leur douar et de leur mechta, arrivés par bateau entier, puissent se mélanger à la société française, on leur a aménagé des ghettos verticaux où la misère a été entassée avec la misère. Les papas partaient très tôt à leur travail, avant même que ne le préconise Sarkozy, n'est-ce pas? Lui qui parle de se lever tôt, travailler plus, gagner plus. Eux, ils se levaient tôt pour gagner moins que les autres. Et les enfants venus en bas âge ou nés sur place faisaient leur apprentissage de la vie dans la rue, entre un papa toujours au boulot et une maman qui ne parlait même pas la langue maternelle de ses propres gosses. Une langue bizarre faite de briques et de brocs, de colère rentrée et de mal-être. Un peu comme le rap d'aujourd'hui, hein, ce rap qui est détesté par un Finkielkraut, hein, pour des raisons évidentes. Ces cités et ces quartiers prirent vite le nom de cité et de quartier. Il suffisait de dire un enfant des quartiers pour savoir aussitôt de quel quartier il était question. N'est-ce pas? Il n'est pas nécessaire que nous rentrions dans les détails qui amenèrent ces enfants à être surreprésentés dans les prisons, comme l'a si courageusement signalé le grand Zemmour. Zemmour qui, dans une autre émission, remit énergiquement et encore plus courageusement une femme noire à sa place, pensait-il, en lui assénant que les races existaient bel et bien, puisque lui appartenait à la race blanche, et qu'elle à la noire. Encore un peu, hein, avec son air de dédain, sa morgue, la façon avec laquelle il l'a regardé, la vidéo est consultable sur le net, encore un peu, et il lui aurait affirmé qu'il était plus aryen qu'on ne se l'imaginait, et qu'il était plus proche du Scandinave que de ses propres ancêtres venus de la communauté juive algérienne, où on est aussi crépus, aussi bronzés que le reste des Algériens. Et ce qu'il oublie de dire justement à ce propos, est que si les Arabes et les Noirs sont surreprésentés dans les petits larcins, les Juifs, eux, sont ultra présents et surreprésentés dans le vol, de grand vol, de haut vol, celui qui déleste des nations entières du fruit de leur travail, de leurs ressources naturelles, et qu'ils sont surreprésentés dans tous les médias qui contrôlent le monde, dans les banques qui pratiquent des spéculations planétaires et qui mettent des nations entières à genoux, qu'ils sont hyper représentés dans toutes les institutions américaines et particulièrement au Congrès, qui font des USA leur chose, et qu'ils s'en servent comme d'un gourdin pour assassiner les peuples, pour les assommer. Chacun, voyez-vous, est surreprésenté comme il peut. Et très franchement, si on devait mesurer la nocivité des uns et des autres au trébuchet de la vraie justice, les Arabes et les Noirs sont des chérubins à côté des vampires qui chassent en meute et qui saignent l'humanité entière. Et je tiens à affirmer, sans aucune hypocrisie, que je ne suis pas antisémite. Je constate seulement. Mais personne ne peut m'empêcher de constater ce qui est constatable. Mais je n'oublie pas, par contre, qu'il y a dans le monde et dans l'histoire des juifs lumineux, des justes, qui, bien plus que moi, se bat tous les jours de façon admirable contre le monstre tentaculaire qui opprime l'humanité et qui broie sans aucune pitié le pauvre peuple palestinien. Les Palestiniens. Et justement, pour reprendre le sujet sur lequel j'avais commencé, celui de Marah Mohamed, celui qui a affirmé qu'il avait tué des enfants juifs pour venger la mort d'enfants palestiniens tués par l'armée israélienne. Je dois d'abord dire, avec force et sans aucune ambiguïté, que nous dénonçons, c'est-à-dire moi, ma famille, mes amis, tous les gens de ma communauté qui pensent comme moi. Nous dénonçons ces assassinats comme étant barbares, ces assassinats d'enfants et d'hommes et de militaires désarmés. Des assassinats comme étant barbares, cruels et injustes. Je me demande dans quel islam Mohamed Merah a trouvé de tels commandements. Je ne doute pas qu'il les ait trouvés, parce qu'on peut tout faire dire à la religion, à n'importe quelle religion d'ailleurs. Une chose est son contraire. Cela dépend juste de ses propres dispositions à voir la vie, le mal, le bien. Mais mon islam à moi, l'islam de ma communauté, celui que m'a dispensé ma mère, est tout de douceur et d'humanité. Oui, bien sûr, il fait obligation à l'homme digne de défendre son honneur et son bien, et même celui des autres, de résister à l'oppression, de dénoncer le mal et d'appeler au bien. C'est pour cela que tout musulman, qu'il soit pratiquant ou non, ne peut accepter une telle violence faite à des hommes désarmés, faite à de petits enfants tués devant leurs propres parents. Ceux qui se livrent à de telles monstruosités ne doivent invoquer ni l'islam, ni la souffrance du peuple palestinien. Oui, la souffrance du peuple palestinien, n'en déplaise au président du CRIF, l'armée israélienne a bel et bien assassiné des centaines, voire des milliers de petits-enfants palestiniens avec une sauvagerie qui est infiniment plus monstrueuse que celle du plus grand assassin d'enfants. Mais on ne combat pas un monstre avec ses propres méthodes. Oui, nous devons soutenir le peuple palestinien en effet. Le dernier peuple colonisé de la planète, occupé de façon atroce, victime de liquidations ethniques qui ne dit pas son nom, enfermé tout entier dans une prison à ciel ouvert et qu'on pilonne régulièrement pour le punir d'avoir résisté à une plus grande occupation, une plus grande occupation, une plus grande oppression. Ce qui se passe en Palestine est un génocide étiré sur le temps. Une multitude de crimes contre l'humanité, des crimes de guerre poussés au raffinement sadique. C'est un terrorisme d'État, avec des moyens considérables contre un peuple désarmé, abandonné de tous, livré à la folie meurtrière de lâches qui croient pouvoir exorciser des souffrances mémorielles en se livrant à des carnages collectifs sur des victimes expiatoires, en se déchaînant sur elles de vieilles haines rentrées, n'épargnant ni les femmes ni les enfants, dans un climat d'hystérie collective où le Palestinien est désigné comme un moins que rien, un sous-homme, une chose innommable qu'on peut écraser sous son talent comme une bête malfaisante, en toute bonne conscience. Puisqu'elle n'est ni humaine, ni encore moins juive. C'est cela, l'état d'esprit qui est inoculé aux soldats de l'armée d'Israël. Et pendant que ce malheureux peuple est ainsi broyé, les médias occidentaux, tous acquis au lobby sioniste, ou presque tous, ainsi que les politiciens, tous acquis aux thèses sionistes, ou presque tous, et tous les faiseurs d'opinion, nous présente un Israël soucieux des droits de l'homme, seul état de droit dans la région, comme si cela pouvait être la moindre référence, mon Dieu. Et la communauté maghrébine en général se sent solidaire des Palestiniens, comme une grande partie de la société française par ailleurs, celle qui ne peut pas s'exprimer, celle qui disséminait, celle qui n'est pas représentée, ou plutôt qui n'est plus représentée, depuis que le communisme s'est dispersé aux quatre vents. La population maghrébine éprouve un immense sentiment d'injustice, mais aussi de frustration pour tout ce qui est infligé aux Palestiniens. Non seulement parce que ceux-ci sont musulmans, puisqu'il s'en trouve parmi eux qui sont chrétiens, mais surtout parce que c'est un peuple opprimé et qui éveille, et dont les souffrances éveillent des réminiscences d'un passé proche vécu par les parents, par les grands-parents, contre le Maghreb et d'autres pays africains géniés sous la férule colonialiste. Mais ce qui fait le plus mal, à mon avis, à ces communautés, est la position des prétendus représentants de l'islam de France. Des représentants qui sont sortis tout casqués du cerveau de Sarkozy lorsqu'il initia ces curieux cénacles. Il les avait initiés et aidés à leur structuration, à leur organisation, non pas pour permettre aux musulmans de France de s'exprimer et de parler d'une seule voix, mais surtout pour les contrôler, pour désigner des sortes de gardes-chiourmes à leur surveillance. Et c'est ce qui advint. Ces représentants, entre guillemets, élus dans des parodies de consultation et qui se bouffent le nez les uns les autres parce qu'il y a tant à manger au râtelier de la déchéance, ont poussé celles-ci jusqu'à monter les communautés les unes contre les autres, marocains contre algériens, voire même parfois certaines villes d'origine les unes contre les autres. Et ainsi, ils se sont inventés des champs de bataille à la mesure de leur petitesse, où ils se mordillent le jarret en jappant des méchancetés de basse-cour, en même temps qu'ils font assaut de zèle pour passer la brosse à quiconque veut bien les recevoir, qui à Matignon, qui à l'Élysée, qui chez monsieur le préfet, et j'en passe. Et ça vous demande des petits passe-droits pour le petit dernier, un visa pour la cousine, une petite licence de taxi, de tabac et autres aumônes qu'on leur consent du bout des pieds. Du bout du pied. Comme un... Je n'ose pas dire le mot. En même temps, ceux qui représentent les Juifs de France, le CRIF tout particulièrement, se battent avec acharnement, avec ténacité, et même avec courage, il faut le dire, pour leur Israël chéri. Et ils y vont même de leur poche, de leur temps et de leur énergie. Voilà pourquoi la communauté musulmane se sent trahie, livrée à elle-même, ou plutôt livrée à la voracité de pseudo-représentants qui passent leur temps à lorgner sur de petits privilèges, à saliver sur celui que le concurrent d'à côté a réussi à leur arracher. Et ils mendient littéralement de petits passages à la télé, où ils viennent nous saouler avec leur petite profession de foi républicaine, dite dans un français qui se veut académique, et qui se veut seulement, et qui cache mal l'accent du pays, dont ils ont honte, qu'ils cherchent à cacher sous un accent parigot, tout frais acquis, qui fait se marrer dans les chaumières. Voilà pourquoi les Mohamed Marrah et tous ses révoltés, tous ses écrits, ses aigris qui lui ressemblent, sont allés chercher un islam moins sirupeux et qui leur semble plus en accord avec leur colère, leur mal-colère. Ils ont tort s'ils croient que les sermons, ou plutôt les imprécations, dont on les abreuve en Afghanistan et ailleurs, sont un palliatif à l'ignominie de leurs représentants en France. Dans l'absolu, les uns et les autres se valent. Les premiers sont des profiteurs de petite envergure qui volent au ras du tapis de prière, et les seconds sont des seigneurs avec un AI, des seigneurs de guerre qui plantent leurs griffes dans le désarroi des autres et qui leur transmettent la rage de tuer, la haine de l'autre. Les deux catégories appartiennent à celles des vampires qui sucent le sang de ceux dont le sommeil est trop profond. Je vais vous raconter une anecdote pour illustrer un peu par le vrai ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Il y a deux ou trois jours, dans la soirée du 21 au 22 mars, sur BFM TV, à environ 22h, dans l'émission Info 360. Les invités étaient M. Prasquier, le président du CRIF, et M. Moussaoui, le président du CFCM, représentant des musulmans de France. Donc, après avoir fait leur profession de foi, M. Moussaoui, surtout, qui semblait vouloir se faire pardonner des crimes qu'il n'avait pas commis, et qui se faisait petit au possible avec son petit accent parisien. Alors, M. Prasquier part dans une litanie, comme d'habitude, sur la propagande à laquelle se livrent les ennemis d'Israël, et de nous dire qu'il ne fallait surtout pas reprendre cette thèse que Mohamed Merah aurait assassiné des enfants juifs pour venger les enfants palestiniens tués par l'armée israélienne, puisque dans sa propagande dessous, puisqu'il était à BFM TV aussi, de nous dire, Monsieur Prasky, de nous dire que toutes les images qui circulent sur le net, où on voit des enfants palestiniens assassinés, de pauvres corps désarticulés que tout le monde a vus, sont des photos de propagande. Et que ces photos étaient celles d'enfants tués dans des accidents de la route. Rien que ça. Il a eu l'audace de le dire. Faut le faire, hein, n'est-ce pas? Des victimes d'accidents de la route. L'animatrice, n'a rien rétorqué à cette énormité, bien sûr, puisqu'elle est à BFM TV. Mais on se serait attendu à une toute petite remarque de M. Moussaoui. Aussi timide puisse-t-elle être? Eh bien, rien. Rien. Pas un murmure, ni même un regard. Il est juste rentré dans ses épaules et il a essayé de se faire oublier. Et que pensez-vous que des millions de gens qui connaissent ce qu'ont subi les enfants palestiniens de la part de cette armée israélienne vont penser? Que pensez-vous? Imaginez un peu la réaction de ceux qui ont pleuré les innombrables corps déchiquetés par les bombardements de petits enfants innocents aux corps fracassés, broyés. Imaginez-les lorsqu'ils écoutent le représentant des Juifs de France leur dire que l'armée israélienne ne tue pas d'enfants, que c'est de la propagande et que ces photos sont truquées et que ce sont des photos d'accidents de la route. Comment les gens ne vont-ils pas faire d'amalgame après ça, après avoir entendu une telle déclaration? Comment ne vont-ils pas faire d'amalgame entre les Juifs de France et l'armée israélienne? Et comment, a fortiori, croire un seul instant après avoir constaté la timidité, pour ne pas dire plus, du représentant des musulmans de France devant une telle contre-vérité, que ce représentant et ses semblables puissent un jour être d'un recours éventuel, un refuge communautaire, une référence? Je ne tente pas d'expliquer, ni encore moins de justifier les crimes de Mohamed Merah, pour la simple raison qu'ils sont inexcusables et injustifiables. Et je dirais même si cela paraît un peu cynique, qu'ils sont contre-productifs pour la lutte de toute une communauté qui revendique plus de considération et moins de stigmatisation. Juste, elle demande juste à être évaluée au mérite intrinsèque et individuel de chacun de ses membres, et qu'on lui reconnaisse le droit au respect dans une société qui est désormais la sienne aussi, même si elle est restée attachée à des particularismes qui n'en sont pas moins l'expression d'une longue chaîne mémorielle. Mais je dis aussi que si une telle crise secoue l'humanité, secoue la communauté musulmane en France, et par conséquent toute la société française, c'est parce que, en plus de vrais problèmes liés à l'emploi, au logement, à la malvie d'une façon générale, des facteurs aussi graves qu'ils sont déterminants viennent la compliquer et l'aggraver. Et parmi ceux-ci, la représentation des musulmans, telle que voulue, planifiée et mise en route par Sarkozy, a une grande part de nuisance. La complicité de la situation aurait voulu que les musulmans de France puissent disposer de représentants idéaux, intègres, enthousiastes et compétents. Au lieu de cela, on leur a fourgué du grand n'importe quoi. Il est vrai que la balle est dans leur camp et que c'est à eux qu'il appartient de faire le ménage chez eux, comme dans toutes les organisations représentatives de cette communauté en France, qui sont presque toutes prises en otage par des opportunistes qui se servent de leur communauté comme d'un fonds de commerce, un vil fonds de commerce. Mais il est impératif aussi, pour le bien commun, et avant que la situation ne s'envenime davantage, que le législateur français aille dépoussiérer tout ce foutoir. Merci.
Bonjour ma vie, bien vous mes désespoirs, me revoici au fossé, on a qui ma misère. Voici le coin de boue où dormait mon front fier. Voici ma vie à moi rassemblée en poussière.